Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour. Voilà. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, je ne sais plus. On avait commencé une étude sur le prophète. Ah, vous n'étiez pas là. J'avais oublié. Habacuc. C'est un petit livre qui passe inaperçu dans votre Bible. Combien de chapitres ? Non. Non. J'ai entendu. Ah ben, si vous regardez dans votre Bible, alors je ne pose plus de questions. Hein. Non, 3. Ah ben voilà. Bon. Alors, nous ne pouvons absolument pas faire l'impasse sur les conditions et la situation de notre monde d'aujourd'hui. On a en effet de nombreuses informations, le jour, la nuit, enfin par quelques moyens que ce soit, les médias. Et c'est vrai que je crois que le prophète Habacuc répond à nos préoccupations. Alors il y a 2 conditions, il y a plutôt 2 états particuliers. Il y a les enfants de Dieu, dont la parole de Dieu, dont la Bible, l'Écriture sainte, nous tient quand même au courant. Et c'est une perspective qui est dévoilée de ce que est, de ce que sera le monde de demain, après-demain, dans 10 ans, dans 50 ans, je ne sais pas. Et puis il y a tous les autres, que l'on pourrait qualifier bien là où la foi est davantage une croyance religieuse qu'une conviction. Et là, il y a beaucoup d'angoisse. Je pense que les enfants de Dieu ne sont pas angoissés par les temps qui sont les nôtres. Nous, nous avons des promesses, et non pas qui viendraient de l'imagination, d'une philosophie, d'une manière ou d'une autre, d'une idéologie, mais nous avons des promesses d'un Dieu qui, certes, est invisible, mais qui nous proclame la vérité qu'il faut saisir par la foi. Alors, on va ouvrir le livre du prophète Habacuc au chapitre 4. Non mais attendez, je voulais savoir si vous aviez remis vos pendules à l'heure. Ça fait déjà 15 jours, 3 semaines qu'on a changé d'heure. D'accord ? Bon, je vais être sérieux. C'est terrible hein, quand on vieillit. Alors, on va prendre Habacuc. Moi, je ne veux pas refaire naturellement tout le chemin qu'on a fait dans la première étude, pour la bonne raison que vous en souvenez tout à fait. Alors, Habacuc, chapitre 2. Alors, on avait vu le chapitre 1 et une partie du chapitre 2. Chapitre 2, Habacuc. Alors, comment vous dire, pour vous situer, c'est avant Sophonie, il n'y a pas beaucoup de chapitres non plus, et c'est avant, c'est après Nain. Chapitre 3 encore, c'est le chapitre, il y a des petits chapitres, on les appelait les petits prophètes, mais finalement, ils ne sont pas petits. Hein. C'est colossal ce qu'ils ont écrit. C'est des projections de l'avenir. Et Habacuc, on pourrait dire que c'est en quelque sorte une introduction au livre de l'Apocalypse, que je rappelle, le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre de terreur, c'est un livre de révélation pour l'espérance des enfants de Dieu. Alors, n'allez pas confondre. Hein. Alors, Habacuc, chapitre 2, verset 2. Le prophète dit « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerai après ma plainte. » Alors, nous allons mettre ça de côté, nous y reviendrons tout à l'heure, et j'aimerais maintenant, lecture sera un petit peu, légèrement un peu plus fournie, chapitre 3, toujours le même livre, chapitre 3, verset 16. C'est la réponse. Il dit à un moment donné, je veillais pour savoir ce que Dieu va me dire. Et qu'est-ce qu'il dit, Dieu, dans cette affaire ? Il répond à Dieu, « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront plus de nourriture, les brebis disparaîtront des pâturages et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, c'est le mot clé de notre message, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher dans mes lieux élevés. » Le prophète se tient devant eux en disant, « Mais explique-moi, donne-moi les raisons de ce désordre mondial. Dis-moi ce qui se passe. Comment nous allons, nous, peuple de Dieu, nous en sortir ?» C'est vrai, c'était vrai hier, mais c'est vrai encore aujourd'hui. Et Dieu lui répond, bah « Écoute, ce que je vais te dire, ça va peut-être te choquer, mais c'est pourtant ce qui va se passer. » Et nous l'avons vu avec en travers, et je vais le commenter d'ici quelques instants. Quand le prophète entend la réponse de Dieu, il est terrorisé, tétanisé, on pourrait dire. Il est effrayé, parce que les mots... qui sont employés, et Dieu va lui donner les choses dans le détail. Le figuier, la vigne, la nourriture, les animaux des champs, tout ça, il n'y aura rien de tout ce que tu connais aujourd'hui. Ça va être une catastrophe. Par contre, la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, elle sera celle-ci. Habacuc, malgré... cet ouragan et cette avalanche qui lui tombe sur la tête, qui l'écrase, le tsunami, on peut dire, il va réagir d'un seul coup et il va dire « Je veux me réjouir en l'Éternel parce que le Seigneur est vainqueur de tout ça. » Ça nous amène, finalement, à ce que nous vivons aujourd'hui. Vous entendez les bruits ? Oui. Vous entendez tout ce qui nous est annoncé ? Et il n'y avait pas Internet du temps d'Habacuc, hein ? Les nouvelles se passaient comme ça, dans ce contexte, avec les moyens de ce temps. Mais aujourd'hui, dans l'instant T, on a des nouvelles de ce qui se passe en Chine, de ce qui se passe en Russie, de ce qui se passe aux États-Unis, etc., etc. Dans l'instant T. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, certainement, de crainte, et elle est tout à fait logique, c'est vrai. Et là, nous allons rentrer, après avoir entendu la réponse de Dieu, et après avoir prié, nous allons découvrir le prophète qui va passer de la prière à la supplication. Nuance, La prière, c'est demander, vous recevrez, chercher, vous trouverez, frapper, l'on vous ouvrira. Les graduations, les différents stades de la prière. Mais la supplication, c'est véritablement... impliquer nos corps à se briser quelque part et y mettre toute notre âme, toute notre énergie, tout notre cœur, nos sentiments, notre affect et de se plier devant Dieu jusqu'au cri, au pleur. C'est pas une petite affaire ce que nous raconte Habacuc. Et vous savez ce que l'on vit aujourd'hui ? Ça a déjà été vécu dans le cours des siècles, ne serait-ce que ce 20e siècle de feu et de sang. Eh bien aujourd'hui, je ne sais pas, mais... on avait dit, et ça c'est la surprise des pays occidentaux, on avait dit, mais ça ne reviendra pas, on va tous s'entendre. Ça c'est de l'utopie, et c'est de l'imagination, parce que le mal existe. Et parce que l'Apocalypse c'est aussi, finalement pour nous prévenir, que Dieu va remettre de l'ordre dans le désordre. C'est difficile à comprendre, parce qu'il y a des politiques, il y a toutes sortes de choses. Et je ne veux pas dire que ceux qui sont au pouvoir ne font pas tout ce qu'ils peuvent pour essayer de conserver la paix dans notre monde. Pour essayer, mais enfin, voilà, c'est quand même curieux, parce que pour avoir la paix, on commence par la guerre. Et ça se finit toujours comme ça, par la paix. À un moment ou à un autre, une accalmie. Parce qu'on s'aperçoit que 30 ans ou 40 ans après, on n'a pas oublié, hein, le monde n'a pas oublié. Alors, ce que je voudrais vous dire ce matin, et le message d'Habacuc, c'est le savoir-vivre, ou comment vivre par la foi, dans la foi et avec la foi. Au cœur de l'angoisse, et je commence, Dieu va utiliser comme instrument de discipline pour Israël qui est rebelle, un peuple, on en a parlé, je ne reviens pas sur ce que nous avons dit, les Chaldéens, qui va devenir un empire, qui va devenir une puissance, qui va faire tomber d'autres empires pour prendre leur place. Les Chaldéens. Et d'ailleurs, dans Habacuc, si vous permettez, je vais peut-être faire des citations aujourd'hui, parce que je voudrais quand même nourrir un peu les choses avec, non pas de toutes sortes de textes extérieurs, mais quand même, la parole se répond à elle-même. Dans Habacuc, Dieu dit tout simplement, « Je vais susciter les Chaldéens », c'est au chapitre 1er, verset 6, « Je vais susciter les Chaldéens, et ils sont qualifiés de peuple furibond et impérieux. » Imaginez-vous la puissance. Imaginez-vous ce déferlement de cavaliers, de chars, de toutes sortes de gens. Ça, c'est l'Antiquité, hein, avec les moyens de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on relie des 300, 400 millions de personnes, quelquefois, pour se mobiliser. Parce que maintenant, c'est une lutte entre les blocs et les blocs. Hein, ce n'est pas régional, hein, seulement. Hein. Et à l'époque, quand ils avaient 10 000 soldats ou 15 000 soldats, c'était déjà pas mal, hein. Mais aujourd'hui, ça prend des proportions encore autrement. Je rassemblerai les Chaldéens, parce que les Chaldéens vont me servir, moi, Dieu, pour remettre mon peuple élu dans le droit chemin. On en parlera d'ici, on ajoutera quelque chose. Mais une chose que je voudrais surtout souligner, et ça, c'est quand même la stratégie de Dieu qui ne nous viendrait pas à l'idée, on le voit dans les fêtes, mais ça ne nous vient pas forcément à l'idée, c'est que ces mêmes Chaldéens, qui sont des terroristes, qui sont des gens extrêmement cruels, eh bien, à un moment donné, quand la leçon va être apprise par Israël, seront châtiés à leur tour. Mais ils seront châtiés 10 fois plus qu'Israël. Vous connaissez l'adage ? L'arroseur arrosé. Vérifiez vos tuyaux d'arrosage, ça vous évitera des surprises. Alors, c'est ça la question. Et nous voyons, et nous allons en parler d'une manière, non pas imagée, mais je vais vous donner des exemples historiques tout à l'heure. Hein, je vous demanderai d'être très attentif, parce que c'est des choses que nous connaissons, nous les avons appris à l'école, ou nous les voyons aujourd'hui, de toute manière. Dans l'histoire profane des nations, on parlait des Chaldéens, mais toutes les nations qui étaient autour d'Israël, ce phénomène de retournement de choses, où Dieu se sert de la guerre, comment Dieu, qui est un Dieu de paix, un Dieu d'amour? Mais oui, il se sert de certaines méthodes qui sont terribles, parce que l'odieux dans cette affaire, c'est pas Dieu, c'est les hommes qui eux-mêmes attirent, finalement, des condamnations et des jugements. Alors, on s'aperçoit que dans cette histoire des nations, ce phénomène dont je vais vous parler ce matin, ce qui sera le cœur de notre méditation, eh bien, a toujours été présent depuis les temps immémoriaux. Les crimes, l'arrogance, les cruautés, est-ce que c'est pas ce que nous entendons en ce moment? Vous savez qu'il y a des millions d'Ukrainiens aujourd'hui qui sont sans lumière, qui sont sans eau et qui sont bombardés. C'est terrible, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas de soins pour être traités, et il y a des gens qui pourraient être sauvés, mais qui meurent de leurs blessures. C'est terrible, hein, ce qui se passe, hein. Parce que c'est un principe universel. Ne faites pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. Je relis ça un petit peu à la situation d'aujourd'hui. Les deux dernières guerres ont été très illustrées, malheureusement. Ont été des preuves de ce retournement de choses. Des pays qui nous sont proches ont voulu conquérir le monde et qui, quelque part, ont été dévastés. Bon, ils se sont relevés. Parce que il faut aussi, ceux qui sont tombés, il faut aussi les aider à se relever. Ça, c'est aussi la miséricorde de Dieu, vous comprenez? Alors, c'est un principe universel à garder en mémoire. On avait prêché au mois de septembre sur ce texte que je viens de citer tout à l'heure, « Ne faites pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. » Parce que si on vous le fait à vous, vous allez voir ce que ça va être. Et Jésus le dira, « Ne jugez point. » Parce que on vous jugera la manière dont vous avez jugé, et à ce moment-là, eh bien, votre coupe sera remplie une fois, deux fois, trois fois, et elle va déborder. Attention, ce sont des principes que l'Évangile nous enseigne, et ce n'est pas les hommes qui maîtrisent ces choses, ça leur échappe, de toute façon. Ce n'est pas possible autrement. Et si les croyants que nous sommes, enfin, les croyants en Dieu, ou les croyants en Christ, veulent vivre en paix dans des temps de tumulte, nous voulons garder notre paix. Notre paix intérieure, je parle, ce n'est pas une paix, comme nous la connaissons. Devant les faits tragiques que traverse le monde, que nous traversons aujourd'hui, car l'histoire est un perpétuel recommencement. Et c'est sur ce temps, dans le temps et dans l'espace, que je voudrais enseigner ce principe. Parce que ça n'arrive pas comme ça. Ça n'arrive pas comme ça. Alors voilà le positionnement du prophète, qui est, comme tout un chacun, un homme de Dieu, certes, un homme de foi, mais comme tout un chacun, il est angoissé, il est perplexe. Il se dit, mais comment cela peut-il arriver? Comment notre nation d'Israël, qui est le peuple élu, qui est un peuple qui sert Dieu, bon, ça reste à savoir si véritablement il ne multiplie pas les rites en quantité en oubliant la qualité. Bon, ça reste naturellement. Alors il dira à un moment donné, c'est là où nous avons repris notre lecture, il dira, mais je veillais pour voir. Parce que j'attends de voir, non pas en bas, mais en haut. C'est un homme de Dieu. Alors, il monte sur la tour. On a déjà expliqué, vous retrouverez le message. Parce que ça nous donne d'être au-dessus, d'être dans une tour, naturellement. Je veillais pour voir. Et ça, c'est le devoir d'une sentinelle. Or, le prophète Habacuc est une sentinelle. Il regarde, il essaie d'entendre pour prévenir. Et c'est bien dans ce texte qu'il prévient, et où il s'efforce de garder les yeux sur les mouvements de l'ennemi et de s'efforcer, tout simplement, à conserver cette certitude que Dieu va répondre immanquablement, et nous allons voir de quelle manière Dieu va répondre. Le contraire de ce qu'il pouvait attendre. Le contraire, humainement parlant, charnellement, de ce qu'il pouvait attendre. Il aurait pu peut-être dire, eh bien, Seigneur, tu vas me dire des bonnes choses. Moi, c'est terrible ce que je vois, c'est terrible ce que j'entends. Tu nous envoies les Chaldéens pour nous détruire. Tu le dis. Alors tu vas bien arranger les choses. Tu vas bien faire en sorte que tout ça se calme. Il va y avoir des plénipotentiaires pour se réunir, les ambassadeurs, et puis on va essayer de faire des trocs. Tu me donnes un peu de gaz, un peu de pétrole, et puis, je me perds. Je m'égare. Non, mais c'est pas comme ça se passe. Il va entendre un discours qui va être encore beaucoup plus fort et beaucoup plus dur. Mais moi, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, nous appartenons au Seigneur. Il y a les hommes qui, quelque part, ont mis derrière leur dos Dieu, ou la notion de Dieu, la vérité de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, enfin tout ce que vous voudrez de Dieu, c'est la sainteté. Et puis il y a les autres, ceux qui espèrent en Jésus-Christ parce qu'ils sont sauvés. Et c'est pour ça que nous ne devons pas trembler comme des feuilles à chaque fois qu'il y a un coup de souffle. Et il va y en avoir encore. Vous n'allez peut-être pas vouloir que j'aille jusqu'au bout de mon message. Mais j'essaie d'appuyer finalement votre certitude en Dieu que nous sommes ses enfants. Et un père restera fidèle à ses enfants jusqu'au bout. Tu ne feras pas passer ton fils par le feu. Eh bien, vous savez, les sacrifices de l'Ancien Testament, on les a encore dans les tranchées d'Ukraine aujourd'hui. Passer par le feu, c'est quoi comme feu? C'est pas un autel avec du bois entassé comme à Morija. Non, maintenant c'est le feu des canons, c'est le feu des avions, mais tu ne les feras pas passer par le feu. Alors devant tout cela, naturellement, il y a trois manières dans lesquelles Dieu va répondre. La première, c'est que sa parole parle à notre esprit. c'est pas d'avoir une révélation comme Jeanne d'Arc, qui monte à la guerre pour aller sauver le roi Charles VII à Chinon, et puis le faire couronner à Reims. Non, c'est pas ça. Hein. Alors ça, c'est de l'illumination, c'est tout ce que vous voulez. Enfin bon, voilà, c'est du mysticisme religieux, tout simplement. Donc, la première chose, c'est que Dieu va parler à notre esprit. Mes frères et sœurs, nous sommes nés de nouveau, nous sommes convertis à Jésus-Christ, nous sommes régénérés par l'Esprit de Dieu, plus encore baptisés dans le Saint-Esprit. Et là, Dieu nous parle, il nous donne des indications à l'intérieur, nous sentons bien qu'il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mal. On doit savoir nous conduire après quelques années de conversion. Hein. D'accord ? Selon sa providence, parce que je reste toujours sur cette pensée que Dieu est bon. Voilà, providence de Dieu. Et puis Dieu se sert aussi des circonstances et des événements pour nous parler. Et il nous est simplement parlé que Dieu récompense. Chapitre 2 et verset 2, il est dit « L'Éternel m'adressa la parole » et il dit, on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais je le lis maintenant. « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, cette prophétie. Voici, son âme est enflée, il n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par la foi. Mais le juste vivra par la foi, qui était finalement eh bien, le thème de notre premier rendez-vous. Il vivra par la foi. C'est ça, la manière de Dieu. Et tu l'aggraves. Et heureusement qu'elle était gravée, parce qu'on l'a dans notre Bible depuis des milliers d'années. Cette prophétie a été gravée, que quand Dieu fait une promesse, il va aller jusqu'au bout. Ne doute pas, mon frère, ma sœur, n'aie aucune crainte. Tu attends ? Eh bien, c'est le lot de tous les hommes d'attendre. Eh oui, alors quelquefois ça brûle, hein, parce qu'on voudrait que ça arrive plus vite. Mais non, le Seigneur sait très bien les choses, et c'est ce qu'il nous est dit d'ailleurs. Dans Pierre, je cite l'apôtre Pierre, quand il nous parle de cette manière, et au chapitre 2, versets 1 et à 20, il est bien donné cette notion, elle est claire, il est dit « Nous nous tenons pour d'autant certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à que paraisse l'étoile du matin. » Moi, je dis que c'est extraordinaire, cette parole. Une lampe allumée dans la nuit. Eh bien, la parole de Dieu, c'est une lampe allumée dans la nuit. Les prophéties, les promesses de Dieu sont des lampes allumées dans la nuit. Et c'est là qu'elles nous guident, elles nous dirigent. Même dans les temps que nous vivons aujourd'hui, ne vous désespérez pas. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Ça va ? Compte tenu de votre enthousiasme, je vous soulève. Eh oui, mais c'est vrai, c'est ça la parole. Il faut s'imprégner de cette parole. On est à table aujourd'hui. Hein, il y a la sainte table, bien sûr. Mais on est à table parce qu'il y a tellement de questions. Vous savez, à chaque fois que j'ai des coups de fil, et ça m'arrive quelquefois, les gens nous parlent de l'actualité. Ils nous disent, mais qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense ce que je peux en penser, hein, parce que moi, je n'ai pas la science infuse. Mais néanmoins, il y a des choses dont nous devons nous encourager dans les promesses du Seigneur. Sur les promesses du Seigneur. Car la prédiction de Dieu, adressée à Habacuc, elle est certaine, car les temps sont déjà fixés d'avance. Le Seigneur sait déjà comment ça va se terminer là-bas, dans l'Est. Il sait comment ça va se terminer dans toutes les situations où il y a une détresse ou une misère sur cette terre. Toutes les catastrophes naturelles, et les faits des hommes qui s'entretuent, il sait comment ça va s'arrêter. Il en connaît l'heure, il en connaît le jour, il en connaît l'année. Ne doutons pas, hein. Ne doutons pas, c'est important. Et il dira, si elle tarde, attends-la. Ne soyons pas impatients, ne sortons pas du chemin, parce que c'est un chemin de sécurité qu'il nous a donné. Alors après, il ne faut pas spéculer, hein. Il y a des gens qui se servent de la situation d'aujourd'hui, hein, on les appelle, là, je ne me souviens plus du nom, mais qui sont contestataires en tout, qui sont les fast-news, hein, qui se répandent, et voilà. Mais ce n'est pas ça ce que nous devons entendre. Et si elle tarde, attends-la. Moi, je pense à cet homme qui nous donne un exemple, il s'appelle Noé. Vous connaissez le monsieur qui construisait les bateaux, là, hein? Enfin, il en a construit un, mais déjà tout seul, c'est pas mal. Il a fallu attendre 120 ans. Vous vous rendez compte, si on mettait 120 ans pour construire ici, à Saint-Nazaire, 120 ans, ça vient pas vite. Eh bien, les Hébreux ont attendu 430 ans en Égypte. Je peux vous dire qu'il y en a eu, hein. Des attentes, des prières, et puis toutes sortes de choses. Vous voulez que ça aille plus vite? Ils étaient esclaves, ils ne pouvaient pas sortir. Mais à un moment donné, le temps était marqué, ils sont sortis. À travers un seul homme. 70 ans de déportation à Babylone. C'est pas mal, hein? Un peuple entier qui va en déportation, 70 ans. Et quand Dieu parlera à Daniel, il dira: maintenant les jours sont arrivés. Relève la tête, parce que vous allez retourner dans votre pays, dans le pays de Dieu, dans le pays d'Israël. Combien a-t-il fallu attendre de temps pour la venue du Messie chez les Hébreux, les Israélites? Eh bien, toute l'histoire de l'Ancien Testament, des milliers et des milliers d'années. Et ce que, chose assez curieuse, c'est que quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et pourtant, ils l'ont attendu. Tout ça, c'est autant marqué. Les choses qui arrivent aujourd'hui, elles sont déjà arrêtées dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas à avoir de crainte, hein. Dieu connaît le futur de l'histoire du monde. Et si ça peut vous rassurer, sortez vos calculettes. Un jour, c'est comme 1000 ans. Ça va, c'est... Oui, 1000 ans. Déjà une vie, c'est déjà pas mal. Vous avez remarqué que ça passe tellement vite, la vie. Moi, je ne sais jamais quel jour on est. Puis avec Myriam, elle ne le sait pas non plus. Alors, je peux vous dire que sur 7 jours, il en reste 5 ou à peu près. Mais autrement, on est perdu. Et on se dit, mais voilà, c'est déjà la fin de la semaine. Vous vous rendez compte? Ça, comme un souffle. Et notre vie, elle est soufflée aussi. Je voudrais vous dire qu'il y a exposé dans le chapitre 2 5 malheurs. 5 malheurs, chapitre 2, verset 6. Je voulais dire simplement, comme Jésus a, dans son réquisitoire de Matthieu chapitre 23, il nous parle des 7 malheurs aussi. Là, il y en a 5. Écoutez bien. Il est dit: malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Ça, c'était pour les Chaldéens, naturellement, pas pour Israël. Au verset 9, il est dit ceci: malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, parce que les Chaldéens s'étaient bien livrés au pillage d'Israël. Au verset 12, il est dit: malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Ça rappelle des souvenirs, là, et récents. Malheur à celui, verset 15, malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre pour l'enivrer, c'est-à-dire le séduire. Le verset 19, c'est le dernier que je citerai. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, c'est de l'idolâtrie. Et puis il y a toutes sortes de choses semblables. La prière de foi du prophète Habacuc, c'est une lutte entre ses sentiments et ses émotions qui sont contradictoires. Et c'est bien le problème que nous rencontrons nous-mêmes devant des situations de perplexité, situations qui nous choquent, situations qui nous scandalisent dans ce qui se passe dans le monde. Le sentiment, l'affect, toutes sortes de choses. Et c'est bien ce qu'il ressent. Habacuc est un vrai homme, hein. Je voudrais vous le dire, hein. C'est pas parce que, voilà, on dit que c'est le prophète Habacuc, mais c'est un homme comme nous, hein. Et nous aussi, on peut avoir... Alors, ce n'est pas d'avoir véritablement une stabilité de marbre. Non, mais on peut passer par là, hein, devant ce qui nous... Vous savez, on a été étreints avec des pleurs dans les yeux, avec des larmes, quand on a vu tout ce qu'on a vu à la télévision ces derniers temps. Hein. Surtout la condition des enfants, la condition des femmes, la méchanceté, la cruauté de refuser, eh bien, l'essentiel pour que les gens vivent normalement. De ne pas pouvoir s'alimenter, de ne pas pouvoir boire, de ne pas pouvoir avoir de la lumière, etc. etc. C'est terrible. Hein. Alors on peut partager ces choses. Et c'est normal, parce qu'autrement on serait des robots. Hein. D'abord, il y a les pourquoi de Dieu. Et quelquefois, Je suis un peu comme abattu. Je dis, mais pourquoi tu permets ça, Seigneur ? Il y a les surprenantes, que nous allons voir tout à l'heure, les surprenantes permissions divines. Mais pourquoi Dieu, tu le permets ? Tu pourrais faire autrement, Dieu Tout-Puissant. Il y a les succès choquants des incrédules et des gens méchants. Ils se disent, mais eux, ils ont du succès. Ils n'ont pas de peine, ils n'ont pas de... Ça, c'est le psaume 73, vous pourrez le relire. Pourquoi les méchants prospèrent-ils ? On est quelquefois dans nos débats avec nous-mêmes, devant des choses que l'on voit, que l'on sait, on est comme dans un no man's land. C'est-à-dire, on se dit, voilà, il y en a un côté et de l'autre, et puis là, on est complètement dans le vide. Et c'est le statu quo. Et ça fait partie, finalement, du programme de Dieu. Voilà que le prophète va vouloir poser la question à Dieu. Dieu va lui répondre, tiens bon. Et puis après, nous verrons justement au chapitre 3, ça sera la conclusion, où là, Dieu va lui dire, mais attends, t'attends pas à ce qu'il y ait une amélioration. Hein. Ça va devenir pire, mais toi, tu vas faire une expérience extraordinaire. Parce que tu es mon enfant, parce que tu es mon fils. Et voilà, dans cette deuxième partie, si on peut dire, de cet ouvrage-là, dans ce deuxième étude, c'est la phase de l'humiliation du prophète. Eh oui, on est humilié de savoir et de voir, de comprendre, de connaître, de constater tout ce qui se passe autour de nous. On est scandalisé quelquefois. Et c'est pas seulement que de la violence, mais ça peut être des déliquescences de la vie morale, de toutes sortes de choses, sans se prendre pour des redresseurs de tort et des juges. Non, mais il y a tellement de choses, on se dit, mais ça nous tombe sur la tête, mais c'est pas étonnant. Revenez à l'Ancien Testament dans l'histoire d'Israël, du temps des juges, et vous verrez que c'était pas triste, ou c'était tristement catastrophique. Habacuc, à un moment donné, c'est ce que nous avons besoin de comprendre, parce que c'est son attitude qui nous est donnée. Comment le prophète va-t-il gérer ce problème ? Habacuc ne veut plus se battre avec ce qu'il ne comprend pas. Mes frères et sœurs, n'allez pas vous taper la tête sur les rochers, vous n'y arriverez pas. Et quelquefois, on se dit, mais il faut que je comprenne. Alors, arrêtez de vouloir tout savoir, tout connaître, et de dire à Dieu ce qu'il a à faire. Parce que quelquefois, en disant, Seigneur, tu aurais peut-être besoin d'un petit conseil. Tu ne sais pas ça? Alors, non. Le prophète va cesser de contester avec Dieu. On ne conteste pas avec Dieu. Et Dieu lui apprend deux réalités. D'abord, la guerre. Eh oui, ça fait partie de l'humanité. Il n'y a rien à faire, Alors qu'elle soit économique, qu'elle soit financière, qu'elle soit sur un champ de bataille, qu'elle soit à travers des rivalités, des jalousies, enfin toutes sortes de choses, elle est multiple dans ses formes. Et Dieu va lui dire, mais la guerre est inévitable. Et pourquoi est-elle inévitable ? À cause de mon peuple d'Israël, qui véritablement m'abandonne. Ils sont comme des réservoirs qui sont percés. J'aurais donné toute la connaissance de ma parole. Je leur ai dit comment être heureux sur la terre, mais ils font exactement le contraire. Donc c'est une citerne qui est crevassée. La guerre est inévitable. Et les belligérants, c'est-à-dire les Juifs d'un côté, et puis les Chaldéens de l'autre, Dieu veut nous l'apprendre. Ils sont ni meilleurs ni pires les uns que les autres. Un peuple est capable d'avoir une très grande culture, d'avoir une supériorité intellectuelle et tout ça. Mais quand il y a la guerre, je peux vous dire qu'il n'y a plus rien du tout qui tient là. Et on voit en effet des bêtes sauvages qui s'affrontent par la haine, par la vengeance, par cette envie de racheter le sang, quelque sorte, et de se venger. Israël a à sa charge son orgueil d'être supérieur à toutes les autres nations. Il a à sa charge l'abandon des valeurs spirituelles. Pourquoi m'as-tu abandonné, dit Dieu, à Israël? Et puis son idolâtrie, qui n'arrange rien dans cette affaire. Cette déliquescence, je l'ai dit, morale. Et en face, Israël fait face à la cruauté, à l'excès et l'ivresse du mal des Chaldéens. Donc, ni pire, ni meilleur, tout simplement. Ce sont des petites étapes, tout ça au fur et à mesure. Alors à ce moment-là, le prophète va, quand il est monté sur sa tour, il va prier. Et puis c'est tout le chapitre 2 qui va être toute une déclinaison finalement de la méchanceté des Chaldéens. Et ça c'est la prière du prophète. Une prière qui qui va finir par la supplication. La supplication, c'est véritablement crier à Dieu. Tout simplement, s'abandonner. Parce que Dieu ne va pas changer ses plans, parce que quelqu'un, finalement, il va prier, c'est vrai. Il va supplier, mais Dieu ne va pas changer ses plans. Et c'est l'acceptation obligée, car le problème du mal résolu, quand il sera traité, c'est comme un cancer. Le mal, c'est un cancer qui vous détruit petit à petit, insidieusement. Mais quand il est guéri, il est guéri. Enfin, c'est ce qu'on appelle une rémission. En tous les cas, on est toujours très prudent. Et alors, à ce moment-là, viendra, et ça, c'est la chose que nous allons maintenant rentrer, dans laquelle nous allons rentrer, viendra la délivrance, viendra la justice, où nous pourrons goûter la miséricorde de Dieu et son pardon. C'est ce qui va se passer pour Israël, après. Nous allons voir, brièvement, les agents du divin châtiment et ce mystérieux retournement de la folie de la guerre. Écoutez, dans Malachie, il est dit cette parole, que je retrouve ce texte, et je trouve qu'elle est bien. Le chapitre 3 et au verset 18, Malachie nous dit ceci. Alors à ce moment-là, lorsque les choses vont être consumées, lorsque les choses vont être réglées, que ce cancer sera résorbé, enfin disons guéri, eh bien, le prophète Malachie nous dit ceci. Eh bien, vous verrez de nouveau la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et je dis que c'est une conclusion extraordinaire, ça. Et vous savez, dans les dernières guerres qu'il y a eu, terribles, abominables, parce que là, on les comptait par millions, hein, les morts, et puis sans compter les blessés, tout ça, à un moment donné, il y a un retournement, et la paix revient. C'est pas grâce aux hommes, parce que leur traité, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est Dieu qui, à ce moment-là, va apaiser les choses. Il va traiter finalement les choses. Alors, je vous demanderai votre attention maintenant, parce que je ne l'ai pas perdu, hein, vous ne l'avez pas perdu votre attention, hein, mais je voudrais vous montrer quelques exemples pertinents. Je vous ai dit que la guerre, elle a commencé, mais elle n'a jamais cessé. Et j'ajouterai ceci, des exemples d'hier et d'aujourd'hui. Et ça m'a rappelé spontanément cette parole, « Celui qui apporte le trouble en portera la peine. » Il en portera la peine. Alors on l'a vu, hein, c'est vrai. Quelquefois même dans les églises, plus rapprochés de nous, que quelquefois il y a des gens qui mettent le bazar. Et à un moment donné, c'est pas la peine de les prendre et les pendre haut et court, là. Non, c'est pas ça, ça sert à rien. Au contraire, ça ne fait qu'envenimer, ça fait des divisions. Mais à un moment donné, Dieu va prendre les choses. Et celui qui a porté, finalement, le trouble, aura à en souffrir. Mais ce ne sera pas parce qu'on lui a dit, parce qu'on lui aura fait ceci et cela. C'est parce qu'il va vivre ce qu'il a fait vivre aux autres. Et ça, c'est important de le signaler. Jésus nous le dit sous une autre forme, les persécuteurs seront persécutés. Celui qui tue par l'épée sera, ou celui qui se sert de l'épée, sera tué aussi par l'épée. Bon, ceci dit, je reviens à ces exemples. Il y a ce que j'ai cru vous citer la première fois, il y a cette tyrannie de 430 ans de l'Égypte sur les Hébreux. Et vous savez comment ça s'est terminé? Le grand empire égyptien, avec des chars, avec des soldats, avec des armées extraordinaires, celui qui faisait la terreur de l'époque, hein, l'empire d'Égypte. Hein. Vous allez faire la déduction. Salut pour les uns et noyade pour les autres. Et comment? À travers la mer Rouge. Hop, ça bascule. Et après, ils ont fichu la paix quand même aux Juifs. Hein. Aux Hébreux, en tous les cas. Plus près de nous, dans notre histoire du protestantisme, c'est quelque chose de passionnant de savoir nos origines. C'est quelque chose d'important. Il y a eu, pendant deux siècles et demi, en gros, la persécution des Huguenots. Vous avez entendu parler de ce nom. Et dans cette persécution, il y a eu d'un côté le brûlement des Cévennes, c'est-à-dire celui qu'on appelle le soleil et que moi j'appelle le roi ténèbres, qui s'est acharné parce qu'il devait y avoir qu'un seul roi, une seule religion, et une seule loi, une seule roi, et une seule patrie. Donc il a éliminé, en faisant la guerre aux protestants, aux huguenots, et à un moment donné, ils avaient été tellement poussés à fond. Alors dans la région des Cévennes, dans le sud de la France, il a donné à son armée, qui était une grande armée, l'armée de Louis XIV, c'était quelque chose, il les a envoyés là-bas, et ils ont brûlé tous les villages. C'est ce qu'on appelle le brûlement des Cévennes. Ça, c'est terrible. Alors, c'est assez paradoxal, parce que Louis XIV était l'arrière-petit-fils, si je me souviens bien, d'Henri IV, qui lui avait signé le traité de l'édit de Nantes. Et lui, il l'a révoqué en 1785. Vous vous rendez compte, le retournement des choses, mais là, ça s'est retourné en mal. Et il y a eu donc, d'un côté, le brûlement des célèbres, c'était au XVIIe siècle, et il y a eu un retour, et un retour qui n'est pas loin de chez nous. C'est la Vendée, avec les colonnes infernales. Les protestants, les catholiques ont massacré les protestants, et 90 ans après, au moment de la Révolution française, en 1793, retournement de la chose. C'est à ce moment-là, les bleus, qui ont persécuté les catholiques qui avaient persécuté avant les protestants. Ça se retourne. C'est pour ça que c'est jamais dans l'immédiat. Ça m'a passionné, moi, cette histoire, et ça me passionne encore. Parce que premièrement, c'est pas loin, c'est à peine 100 km de chez nous. Vendée, et on a appelé ça les colonnes infernales, il ne restait plus personne. La guerre des Balkans, qui n'est pas si vieille que ça, parce que c'était en 1990. Vous savez d'où ça vient, tout ça? Ça a toujours été très agité, les Balkans, de toute façon, depuis toujours, anciennement, l'Empire austro-hongrois. Eh bien, il y a eu un fait, une guerre entre la Croatie et la Serbie. Vous vous en souvenez? On en voit encore des... Et ça a été quelque chose. La date de 1941... Les Croates, Oustachis, catholiques, alliés au Vatican, ont massacré les Serbes. Moi, j'ai lu des ouvrages où là, ça a été une véritable tuerie. On a arraché les yeux des Serbes. On les a persécutés, on les a brûlés, on a fait toutes sortes de choses. Et nous apercevons que, après, c'est les Serbes qui ont pris le dessus sur les Croates. Dernièrement, c'est-à-dire il y a 30 ans de ça. Ça, c'était quelque chose. Les Serbes ont pris parce qu'ils avaient été persécutés. C'est toujours le même retour, avec des massacres épouvantables. C'était les guerres qu'on a appelées de l'ex-Yougoslavie, qui a duré de 1990 à 1992. Aujourd'hui, il y a des cimetières. Si vous allez dans les Balkans, vous verrez des cimetières partout. Les Bosniaques, tout ça, c'était quelque chose de terrible. Et aujourd'hui, nous avons encore le même problème. Le feu est sous la... Et la cendre est enflammée. Il suffit de peu de choses pour que ça reparte. Et puis j'en arrive à l'actualité. Nous avons actuellement une confrontation que nous n'avons pas crue, mais qui est pourtant une réalité. C'est l'Ukraine et la Russie. Alors, d'abord, l'Ukraine faisait partie de la Russie auparavant. Et Staline n'a pas eu la meilleure idée d'affamer ce pays où il y a du blé en abondance, l'Ukraine. Et à un moment donné, pour avoir des devises, pour pouvoir, faire la compétition avec le reste des... pour naturellement étayer cette nouvelle façon de vivre, qui est le communiste, naturellement, eh bien, il y a une grande famine en 1932. Et il a laissé mourir 3 millions d'Ukrainiens de faim. Parce qu'il aurait volé tout le blé, tout ce qu'il pouvait y avoir. Mais les Ukrainiens, ils s'en sont souvenus. 3 millions, c'est quelque chose. Ah, il ne les a pas tués avec le fusil. Il les a tués tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à manger en Ukraine. C'est la grande famine, on l'appelle la grande famine de 1932. Le retour, c'est que quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, les Ukrainiens, ils se sont mis avec les Allemands et avec les nazis pour combattre la Russie. Vous suivez, pour combattre la Russie, finalement, qui les avait tellement maltraités et fait mourir tant de gens. Il y a un endroit au sud de Kiev qui s'appelle Babillard. Est-ce que vous avez entendu parler de ce nom-là? Babillard. C'est une vallée où, en deux jours d'Holocauste, les nazis, les Allemands nazis, alliés aux Ukrainiens, en deux jours, ont tué 30 000 juifs. 30 000 juifs en deux jours. Une balle dans la tête. Mais c'est pas fini. Ils ont été exécutés. Mais dans les mois suivants, il y a eu les prisonniers russes exécutés de la même manière. Les Tziganes, idem. Naturellement, encore certainement quelques juifs. Parce que ces Ukrainiens étaient associés avec les nazis. Et il y a eu un retour en cascade, et en l'espace de quelques mois, dans cet endroit qui s'appelle Babillard, il y a eu 150 000 morts. Alors, bien sûr, à côté des camps de concentration, non, mais 150 000 morts, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est toujours le reversement, c'est toujours le renversement, c'est toujours la bascule, c'est toujours le retour, parce que, vous savez, quelque chose dans le cœur de l'homme, il tient finalement de cette... Il a ce virus de Caïn. Vous comprenez ce que c'est le virus de Caïn? L'homme du premier meurtre, l'homme de la guerre, l'homme du sang, l'homme de la destruction, c'est ça. C'est ça, Caïn, des fils de Caïn. Alors, c'est terrible. J'ai trouvé ça dans les livres d'histoire parce que c'est quand même quelque chose qui est un... C'est quand même quelque chose. Et aujourd'hui, en 2022, eh bien, nous avons le retour de ces choses qui se sont passées il y a 80 ans, où c'est les Russes qui attaquent l'Ukraine. Avec toutes les raisons qu'ils peuvent avoir, mauvaises, naturellement. Parce que s'il n'y a pas de pardon, si le pardon ne vient pas de Dieu, si le pardon n'est pas réel, eh bien, c'est la continuité, c'est la spirale du mal qui prend de plus en plus, comme un ballon de baudruche. Et un jour, ça éclate, et on recommence. Bon, je termine. Ça va. Je termine avec le texte Habacuc, chapitre 3, versets 16 à 19. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. Il y a de quoi avec ce qu'on raconte. Hein. À cette voix, mes lèvres frémissent et mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Il y a trois éléments dans ce verset qui résument le secret de la survie. Le monde est un monde moribond. Mais nous, il faut survivre. À cause de notre foi, le juste vivra par la foi. Pour passer de la crainte à la confiance, d'abord, il y a l'acceptation des événements et vivre avec. C'est ce que nous avons lu. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent et mes os se consument et mes genoux chancellent. Il y a donc cette acceptation des événements. Ce n'est pas la peine de se révolter, ça ne sert à rien. La deuxième chose, c'est comment trouver la paix, sachant que les calamités peuvent durer longtemps, parfois encore. En silence, je dois attendre. La prière est attendre d'une réponse. Et puis la troisième chose, c'est lutter contre l'inclinaison naturelle aux inquiétudes. Quand il est dit ceci, le jour de l'oppresseur marchera contre le peuple. Et c'est ce qui se fait devant nous. Il y a également dans le deuxième élément d'étude, hein, je suis en train de faire une étude biblique en quelque sorte, un commentaire des textes, hein, le spectacle entrevu avec les yeux de la frayeur. Eh oui, il y a les yeux de la foi, où notre visage est rayonnant de joie, et puis il y a le visage de la peur, le visage de la frayeur. Et nous l'avons vu, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront plus de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. C'est la souffrance des hommes et le soupir de douleur de la nature. Vous savez, quand on voit ce qui reste dans les photos là sur les grandes plaines, les vastes plaines d'Ukraine, quand on voit ce qui se passe et ce qui s'est passé dans les villes de Syrie, quand on voit ce qui s'est passé en Tchétchénie et en Géorgie et ici et là, au Vietnam, parce qu'il ne faut pas oublier les autres aussi, hein, ils ont eu, et même chez nous, même les armées françaises. Alors, il y a la souffrance des hommes, mais il y a la souffrance de la nature. Il est parlé du figuier, de la vigne, de l'olivier, de la brebis, hein, des champs, des bœufs. Toute vie végétale et animale est dévastée par la folie de la guerre. Et si je donne une note écologique, c'est la dévastation et l'espérance qui est résumée dans un verset de l'apôtre Paul quand il nous dit ceci, et je voudrais quand même le souligner, il est dit ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et au verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. » On parle beaucoup d'écologie, mais il y a des raisons. Hein. Parce que la guerre, elle n'est peut-être pas forcément sur les champs d'honneur ou les champs de bataille, mais elle est dans l'air, elle est dans l'eau, elle est partout. C'est une guerre, ça aussi. Hein. Et quand on peut empoisonner les gens, bon, je n'aime pas de le faire. Hein. Alors, les yeux de la frayère, je surmonte ce regard qui m'effraie, qui me terrorise, et là, je vais vivre quelque chose de formidable, c'est la fin, finalement, du chapitre. Il y a ce que j'appelle un rebondissement. Et le rebondissement, il est marqué par le verset 18. « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Toutefois, cependant, malgré tout, c'est ça, hein, je suis en train d'amplifier un petit peu l'explication, malgré tout, espérer contre toute espérance. » C'est un message que j'ai donné il y a quelque temps. « Espérer contre toute espérance. » Là où il n'y a plus d'espérance, Dieu dit, « Continue à espérer. » Quand il y a encore un peu de jus dans la grappe, ne dis pas, on va le détruire, parce qu'il y a là encore une bénédiction. Mes frères et sœurs, il y a encore une bénédiction pour les enfants de Dieu. Dans nos églises, dans notre foi, le Seigneur revient bientôt, le diable s'acharne, mais une chose qui est certaine, c'est que le vainqueur, ça sera Jésus. Amen. Quoi qu'il en soit. C'est une courageuse proclamation du bien sur le mal. C'est un retour de l'ordre sur le désordre, une force insoupçonnée qui apparaît comme un défi. C'est ça ce que nous avons à vivre tous les jours. Mais je dis bien tous les jours, pas dans des situations exceptionnelles. Et comment ça s'appelle? Eh bien, ça s'appelle tout simplement de ce que Paul et Silas ont connu dans la prison de Philippe, alors que tout s'écroulait autour d'eux. À un moment donné, Dieu est intervenu à travers un tremblement de terre. Bravo, tout le monde est sorti de la prison. Et il y a eu une conversion immédiate. Le centenier s'est converti à Jésus. C'est un fait. Relisez-le. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, tout simplement. Et il y a là, dans les derniers versets, en quelque sorte, la manifestation de la vie de l'esprit que l'on appellerait la joie et la réjouissance et l'allégresse. On a commencé le texte par des pleurs, des plaintes du prophète, perplexité, et on va finir par glorifier Dieu pour, non pas ce qu'il a fait à l'extérieur, mais ce qu'il a fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, j'exulte de joie, j'exulte d'allégresse, je le bénis, je le glorifie, parce qu'il est vraiment Dieu. Il est vraiment Dieu. C'est la force de la joie. Et il nous est dit que dans un des fruits de l'Esprit, Galates chapitre 5, verset 20, il est dit, la joie est un fruit du Saint-Esprit. C'est pas naturel, et c'est Dieu qui le met. Alors que tout le monde pleure autour de nous, eh bien nous, nous sommes dans la joie, en respectant les pleurs des autres, hein, ça c'est sûr. Je suis plus que vainqueur. L'apôtre Paul le dira également. Ça vous dérange pas que je tourne les pages de ma Bible? Je tournerai les pages du Coran, vous ne serez peut-être pas d'accord non plus. À l'envers, oui. Oui, c'est vrai. Donc, écoutez, ça c'est une belle parole aussi. Dans Romains chapitre 8, il est dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Rien. Dieu est tout. Il est mon souverain bien. Alors, tous ces retournements des faits d'histoire, on a parlé des Hébreux en Égypte, on a parlé des Camisards et des Vendéens, on a parlé des Croates et des Serbes, c'est des exemples, hein, tout ça, de la Russie, l'Ukraine. La conclusion, je l'ai trouvée parce que j'ai trouvé que le texte, il était pas mal. C'est la traduction de la Bible du rabbinat français. Et elle dit comme ça, elle dit ceci. D'abord, moi, j'ajoute, en introduction, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Alors aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil, mais ça ne change rien, de toute façon. Il est dit ceci. Cependant, grâce à l'Éternel, je trouverai le bonheur. Et il est précisé, je retrouverai le bonheur. C'est une nuance. Je me délecterai en Dieu. Qu'est-ce que c'est que la délectation? Je mets la main dans la casserole. Ma femme me fait des bons repas. Hein. C'est pour ça que je suis en bon point. Mais c'est, vrai, c'est quelque chose qui est bon, c'est sublime. On a envie d'y revenir, vous comprenez? Hein? Il n'y a pas que le dessert, hein. Il y a des choses aussi. Je me délecterai en Dieu qui me protège. C'est bien écrit hein, dans le rabbinat français. Hein. Il est ma force et il rend mes pieds agiles. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir la lourdeur, la pesanteur, l'écrasement de situations autour de nous, non, je suis léger, je suis libre, je vis la liberté parce qu'il m'a libéré. Alors il rend mes pieds agiles comme ceux des biches. Vous avez vu les biches quand ils sautent les buissons, les choses comme ça? Essayez de le faire, vous allez voir. Vous allez rester accroché à des épines. Hein. Oui. C'est la légèreté, c'est... Je sais pas, il y a comme une allégresse de la vie. Hein. Et il me fait monter sur mes montagnes. Je me rapproche du ciel. Il me fait monter sur ses hauteurs. Alors que Dieu nous bénisse ce matin. J'espère que je ne vous ai pas indisposé. Je pense que c'est bien de pouvoir mettre en comparaison un petit peu ce qui se passe autour de nous. C'était un petit peu géopolitique ce matin, mais moi je ne fais pas de politique, mais néanmoins ce sont des choses que vous êtes à même vous-même de relever, de constater. Mais si nous avons, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité, et nous voulons être les uns et les autres des Habacucs. Oui Seigneur, dans des périodes qui sont difficiles. Et encore, nous n'avons pas tout vu. Mais dans des périodes qui sont critiques, dans des périodes où les hommes tremblent, ils sont terrorisés, où il y a véritablement, Père éternel, de la méchanceté partout. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te remercier pour l'existence dans le livre de la Bible, eh bien, de ce texte du prophète Habacuc. Tu nous visites, Seigneur. Tu renforces notre foi. Tu chasses le doute, où nous voulons contribuer, Seigneur, à évacuer le doute pour que nous ayons des certitudes, non pas des opinions, mais des certitudes, des assurances. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis mes frères et mes sœurs à Saint-Nazaire. Accorde-leur ton secours et ton aide. Oui, Seigneur, nous pouvons dire, eh bien, que mon Dieu est mon salut et qu'il me fait marcher sur mes lieux élevés. Merci mon Sauveur, merci Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse les uns et les autres.